Les Canuts, première partie, chapitre 7. La vieille horloge de l'atelier venait de sonner 6 heures. Les premières lueurs du jour paraissaient à peine. La mère Jacquemin, qui trouvait les nuits toujours trop longues, balayait déjà en jupon à la lampe. Depuis longtemps éveillé, le père restait enfoui sous ses couvertures, attendant que le poêle fût allumé. On frappa 2 coups à la porte. « Tiens !» murmura la mère. « Qui peut venir si matin ?» Elle alla tirer le verrou. « C'est moi, mère !»«
Marius, est-il possible ?»
« Marius !» répéta le père, sautant du lit. « Tu es blessé !»«
Mais non, je n'ai pas de mal !»
Il les rassura. Le combat avait pris fin cette nuit, et les ouvriers étaient maîtres de la ville. Il redit la défense de la barrière Saint-Clair, la retraite des troupes, l'affreuse tuerie. À présent, c'était aux hommes raisonnables d'exercer leur influence. Il fallait empêcher que cette lutte ne fût suivie de nouveaux désordres. « Aussi, père, Diano et Martinon vous attendent à l'hôtel de ville. Je crois que vous ferez bien d'y aller. Vous leur serez utile. » La mère protesta. Il était malade, de tant d'émotions. N'avait-il pas fait plus que son devoir? Il devait maintenant laisser à d'autres ce qui restait à faire. Mais le père était décidé. Il irait à l'hôtel de ville. Un honnête homme ne devait pas se tenir à l'écart quand on l'appelait. Lasse d'insister, la mère avait allumé le poêle et préparé la soupe. « Mon Dieu !» soupira-t-elle après un violent accès de toux. « Ces hommes me feront mourir !» Le père se rasa devant un petit miroir pendu à la croisée. Puis il mit une chemise propre et endossa son habit. Sur la table, la soupe les attendait. Ils mangèrent vite et partirent. Dans tout le quartier de la fabrique régnait un silence morne. Les boutiques et les magasins étaient fermés. On craignait un pillage. Des ouvriers armés erraient dans les rues, le visage encore noir de poudre, les vêtements souillés et déchirés. Conduites par les chefs, des escouades se dirigeaient vers le centre de la ville pour maintenir l'ordre et faire respecter les propriétés. Des sauvegardes avaient été placées devant les immeubles des grands négociants, de ceux pour lesquels on redoutait la vindicte populaire. Des hommes en guenilles, l'arme au bras, faisaient sentinelle autour des maisons riches. Jacquemin voulut passer par le quai Saint-Clair, où s'était livré le dernier combat. Il ne restait plus de traces de la lutte que sur les murs écornés, marqués çà et là par des boulets et des balles. Ils arrivaient au pont Morand. Sur le quai de Retz, entre la maison Argentiole et la maison de la Perle, on voyait monter la flamme d'un grand brasier. Des insurgés attisaient le feu avec leurs baïonnettes. Des gones faisaient des rondes autour et sautaient à travers les flammes en chantant la carmagnole. Qu'est-ce que cela signifiait? Les deux hommes s'approchèrent. Pêle-mêle, des ouvriers jetaient par les fenêtres des objets de prix et, à pleine brassée, de riches étoffes de soie. D'autres, en bas, poussaient tout vers le feu, sans distinction. Et le brasier dévorait tout. Ces hommes, qui manquaient de pain, ne pillaient pas. Ils détruisaient. On se livrait à des représailles. Marius se souvint. De ces deux maisons, la veille, des gardes nationaux avaient tiré sur les insurgés. Il remarqua même qu'on respectait certains appartements de la maison Argentiole, d'où on n'avait pas tiré la veille. Jacquemin tenta d'arrêter ces actes de vandalisme, mais ce fut en vain. Ces ouvriers prétendaient faire une œuvre de justice. Un d'eux,
qui tisonnait l'énorme brasier, entendant le vieux parler de mauvaises actions, se releva et, tête haute, dit comment ils pratiquaient leur vengeance. Une heure auparavant, lorsqu'on avait pénétré dans ces deux maisons, une bande d'individus avait essayé de piller. Mais eux, les ouvriers, avaient chassé ces voleurs, saisi un homme et une femme, s'enfuyant des paquets sous le bras, les avaient collés au mur et fusillés. Et leurs cadavres avaient été jetés au Rhône. L'ouvrier leur montra la place de l'exécution, marquée d'une mare de sang. Quant aux autres, on les avait mis à l'ombre dans les caves de l'hôtel de ville. Du sang, toujours du sang. Le père et le fils s'éloignèrent pour aller avertir les chefs de section. Il n'était que temps de rétablir l'ordre et de remettre la justice en d'autres mains que celles de ces étranges justiciers. À l'entrée du pont Morand, monté sur le parapet, au milieu d'un groupe, un homme pérorait, avec de grands gestes et des airs d'apôtre, exhortant le peuple à ne pas laisser ressaisir le pouvoir par ceux qui l'avaient fait mitrailler, soulignant les mots de « souveraineté populaire » et de « république ». Les ouvriers l'écoutaient sans enthousiasme. Que leur importait à eux la politique? S'ils s'étaient battus, c'était pour leur pain. Tandis que l'orateur poursuivait sa harangue avec des éclats de voix, appelant à la résistance, quelques-uns haussaient les épaules et le blaguaient. D'où sortait-il encore ce beau parleur? On ne l'avait pas vu quand on se cognait. Maintenant, il braillait plus fort que les autres. La veille déjà, des inconnus avaient essayé d'entraîner les ouvriers à une révolution politique. On avait accepté les fusils et les cartouches qu'ils avaient distribués, mais on avait fermé l'oreille à leurs provocations. Jacquemin, qui s'était attardé près du groupe, s'entendit appeler et se retourna. Martinon venait à lui, accompagné de Buisson, Lacombe, Diano et quelques hommes armés. Prévenu des scènes de désordre qui se passaient sur le quai de Retz, ils étaient accourus pour les faire cesser et avaient dispersé les brûleurs de meubles. Tous ensemble, se dirigèrent vers le cabaret Badi, rue Désirée, où se trouvaient déjà réunis les chefs de section. Une proclamation de M. Bouvier du Mollard, affichée le matin même, les invitait à se concerter avec les autorités pour chercher les moyens de rétablir la tranquillité publique et de soulager les souffrances de la population ouvrière. « Ce sont de bons citoyens, » disait le préfet parlant des chefs de section. « Placez en eux toute votre confiance, » il ajoutait. « Ouvriers, respect à la loi, respect à la propriété. Ne souffrez pas que des malveillants se glissent dans vos rangs pour faire calomnier vos intentions. » Ce langage les encourageait et les rendait fiers. Ils burent un verre, sans s'asseoir, seulement pour trinquer avec les camarades, et aussitôt, Buisson donna le signal du départ. Ils descendirent la montée de la glacière et arrivèrent promptement au perron de l'hôtel de ville. Comme ils traversaient le vestibule, le chef du poste que Martinon avait placé là le matin même vint les prévenir. Des inconnus, se disant membres de la commission d'état-major, avaient pris possession du grand salon et y délibéraient. Résolument, les chefs de section montèrent. Dans le salon Henri IV, autour d'une grande table, une dizaine d'hommes étaient assis, le chapeau sur la tête, le fusil entre les jambes. À la vue des ouvriers, brusquement, l'un des occupants se leva et, la voix insolente cria « Que venez-vous faire ici ? Mais vous, qui êtes-vous donc, s'il vous plaît ? » repartit Lacombe. « Qui nous sommes ? Les délégués du peuple ? Le maire et le préfet ne sont plus rien à l'heure qu'il est. Le peuple seul commande, et a le droit de choisir ses chefs.
« Délégué du peuple? Vous ?»
s'écria Lacombe furieux.
« Mais regardez-nous donc! Aucun des chefs de section ici présents ne vous connaît !»
Et, s'approchant des inconnus, il les prit à partie. Ils avaient cru pouvoir, à force d'audace, faire tourner, au profit du désordre, la victoire du peuple. Ils avaient pensé que de simples ouvriers seraient embarrassés de leur triomphe.
Oh, leur but était clair.
Ils cherchaient à se mettre à la tête d'un mouvement révolutionnaire. Mais les tisseurs ne s'étaient pas soulevés pour faire une révolution politique. Ils voulaient du travail et du pain, c'est-à-dire, avant tout, le rétablissement de l'ordre. Non, le vrai peuple ne se laisserait pas fourvoyer, et ses délégués sauraient faire respecter ses intentions.
Irrités de cette résistance, les intrus s'étaient levés et, la menace à la bouche, agitant leurs fusils, essayaient d'intimider Lacombe.
Hors de lui, Buisson s'avança, et, saisissant par le cou celui qui semblait être le chef, le poussa violemment vers la porte.
« Sortirez-vous, sacrebleu !»«
C'est à vous de sortir !» hurla le chef de la bande, roulant à terre sous la poussée de Buisson.
Mais, au bruit des voix, le poste accourait. Cédant à la force, les intrus se décidèrent à déguerpir après une dernière menace.
Demeurés seuls, les chefs de section s'installèrent autour de la table et délibérèrent. À l'unanimité, Buisson fut nommé chef d'état-major, Lacombe syndic et Frédéric vice-président, avec Martinon, Diano, Carpentier, Lachapelle et Jacquemin délégués. Ils votèrent ensuite le rappel à l'hôtel de ville du préfet et de la municipalité, puis rédigèrent sur le champ une courte proclamation dans laquelle ils invitaient les bons citoyens au maintien de l'ordre et déclaraient que le vol et le pillage seraient punis de mort. Lacombe, qui l'avait écrite, la relut à haute voix, et les membres du comité signèrent.
« C'est bien, » dit Buisson, « et qu'on se le dise. »
Dans tous les quartiers, la proclamation lue au son du tambour fut accueillie avec enthousiasme. Après ces terribles journées, la population entière éprouvait un immense besoin d'apaisement. Sur un avis du préfet, les gardes nationaux furent invités à venir partager l'occupation des postes, afin de préserver la ville de nouveaux malheurs. Aussitôt, on entreprit la formation d'une garde civique en armes, mais sans uniforme. On voulait écarter toute apparence de provocation. Peu à peu, sous la direction des chefs de section, tout rentrait dans l'ordre. Les ouvriers qui n'étaient pas de garde s'employaient à effacer les sanglants vestiges du combat. Les uns faisaient le service d'infirmiers dans les salles de l'hôtel de ville, transformées en ambulances, ou transportaient les blessés à l'hôtel Dieu. Les autres allaient à travers la ville, cherchant les cadavres de leurs parents, de leurs amis. Douloureuse et souvent inutile besogne. Beaucoup de cadavres avaient été jetés à l'eau. Vers 10 heures, on vint, du quartier Saint-Jean, annoncer que les détenus de la prison de Roanne avaient tenté de s'évader. Depuis 2 jours, entendant l'émeute gronder dans la rue, ils s'étonnaient que les insurgés ne vinssent pas les délivrer. La nuit précédente, ils étaient parvenus à percer un trou dans la muraille et, au jour, l'ouverture étant assez grande, ils avaient essayé de prendre la fuite. Mais les ouvriers du quartier avaient accueilli à coups de fusil ces recrues inattendues, avaient tué un prisonnier et fait rentrer les autres dans leur cachot. Puis, eux-mêmes s'étaient constitués leurs gardiens. Dans l'après-midi, le préfet et les 2 adjoints rentrèrent à l'hôtel de ville et adressèrent aux Lyonnais une proclamation qui était un nouvel appel à la conciliation. Ils avaient voulu, disait-il, faire cesser l'effusion du sang, et c'était par un sentiment d'humanité que le général avait consenti à la retraite des troupes. Eux étaient restés pour écouter les plaintes des ouvriers et se concerter avec leurs délégués sur les mesures qui donneraient satisfaction à tous les intérêts. La proclamation de M. Bouvier du Molard venait d'être placardée lorsqu'un homme du peuple entra précipitamment dans la salle où siégeait la commission. Il apportait une affiche, arrachée, toute fraîche encore, du mur de l'hôtel de ville, et signée des chefs de section. Qu'est-ce que cela voulait dire? On leur prêtait là des paroles contraires à leurs intentions. Buisson la lui prit des mains et la lut à haute voix. C'était une attaque violente contre les autorités, qui avaient, disaient les auteurs du factum, perdu leur droit à la confiance publique. Une barrière de cadavres s'élevait entre elle et le peuple. Tout arrangement devenait donc impossible. Lyon, glorieusement émancipé par ses enfants, devait avoir des magistrats de son choix, des magistrats dont l'habit ne fût pas souillé du sang de leurs frères. Les défenseurs du peuple nommeraient des syndics définitifs pour présider, avec toutes les corporations, à la représentation de la ville et du département. Lyon aurait ses comices. Les besoins du peuple provincial seraient enfin entendus et une nouvelle garde citoyenne serait organisée. Les prétendus délégués adressaient, en finissant, un appel aux soldats égarés, aux gardes nationaux dont on avait compromis l'habit, et les exhortait à se rendre, au premier appel, sur les places d'armes. « Et c'est signé !» dit Buisson. « Lacombe, Frédéric, Charpentier, La Chapelle, on a osé se servir de vos noms !»« Tonnerre !» s'écria Lacombe, frappant du poing sur la table. « Les lâches ! Ce sont les canailles que nous avons chassées d'ici ce matin !» Qu'il m'entombe un sous la main. Je le fais coller au mur, comme une chouette sur une porte de grange. » Tous, debout, s'indignaient. C'était un faux et une basse trahison qu'il fallait démasquer. Sur le champ, Buisson envoya par toute la ville des patrouilles, avec ordre de lacérer tous les exemplaires de la fausse proclamation. Puis, les délégués rédigèrent aussitôt une protestation, désavouant au nom de leur honneur et de leur patriotisme les sentiments que leur prêtaient les fauteurs de désordre. Dans la crainte d'une nouvelle entreprise révolutionnaire, le comité d'état-major se déclara en permanence. Les ouvriers qui le composaient se firent apporter à manger de chez eux. Et ces pauvres tisseurs, maintenant maîtres de la ville, dînèrent d'une soupe froide et d'un morceau de fromage dans le grand salon doré de l'hôtel de ville.